This is New York.
Ce building en ciment armé qui ressemble un peu à une casemate est le Guggenheim Museum.
World's largest
New York city is sighting New York City.
Regarde sur New York.
Yes, this is New York.
Vous le voyez dans les rues de New York, que la réalité et la fiction s'enchaînent.
Sirène chroniqueur New Yorkais.
Les sirènes de Chelsea sont de celles auxquelles on ne peut ni ne doit résister. Et bien idiot serait l'Ulysse qui s'attacherait au mât du navire musée pour s'empêcher de répondre à l'appel des sirènes galeries. Alors on dit qu'aujourd'hui plus rien ne se passe à Chelsea, que les galeries In sont parties vers Brooklyn, vers Harlem ou, audace des audaces, vers le Bronx. N'empêche, dans un rectangle qui s'étend en longueur de la 10e à la 11e avenue et en hauteur de la 23e à la 27e rue, chaque mètre carré habitable héberge une galerie. Première plongée dans ce labyrinthe, et, première surprise, que de peintures. S'il fallait choisir, s'il fallait ne retenir qu'un artiste, je garderais sans doute les paysages de Anne Neely, exposés à la Lohengedel Gallery, notamment le superbe Cahusic, une grande composition jaune, brune et bleue qui fait se rencontrer le pointillisme, l'expressionnisme abstrait, Peter Doyle et même un peu de Gustav Klimt. Et s'il fallait déterminer une tendance dominante dans ce triomphe de la peinture, ce serait, sans conteste, le retour de la figure, car en cette rentrée, les peintres abstraits étaient bien peu nombreux dans les galeries de Chelsea. La figure revient donc, et elle ne revient pas sous n'importe quelle forme. Elle reprend les voies de l'hyperréalisme. Vincent Desiderio l'adapte par exemple à la mode néoclassique et monumentale pour son exposition à la galerie Marlborough, mais la tendance dominante est celle d'une association de l'hyperréalisme à des techniques de floutage de l'image, une tendance portée par des artistes clairement influencés, parfois un peu trop clairement d'ailleurs, par le travail de Gerhard Richter. Johannes Kars à la Loring Augustine Gallery ou Paul Winstanley chez Mitchell Hines & Nashes travaillent tous deux à partir de photos, issues des médias pour le premier, de sa collection personnelle pour le second. Et tous deux procèdent à un décentrement pictural pour Johannes Kars qui ne retient pour son travail que des plans extrêmement rapprochés, que des fragments d'images, narratifs, pour Paul Winstanley, qui choisit pour motif des moments ou des espaces quotidiens faits de rien, si ce n'est de flottement et d'ennui, salle d'attente ou de travail déserté, silhouette à la fenêtre, etc. À ce décentrement dans le choix du motif s'ajoute une technique d'éloignement dans la manière. La facture est d'un lycée irréprochable, aucun dépôt de matière, aucune trace qui révèle que l'image soit matière. Et puis ce léger flou qui brouille les contours et semble faire reculer l'image dans un brouillard indécis, comme si la surface avait été passée au coton-tige. Il y a une très grande séduction plastique à ce travail de la profondeur et du flou. En rencontrant pour la première fois une œuvre de Johannes Kars, on est troublé. On ne sait pas à quel médium on a affaire. Le flou, l'indécidabilité des contours, donne même des allures d'hologramme à l'image qui apparaît. Une extrême séduction donc, mais aussi un ennui. Ces images lisses, sans aspérité, qui retournent au monde pour en observer les marges, les flottements, les fragments, mais sans oser assumer leur pesanteur, pas plus qu'elles n'assument la pesanteur de la peinture, ces images lisses nous lassent. Alors, certes, si l'on adopte une attitude plus théorique, ce recours au flou reste toutefois l'indice d'une relation fort intéressante, dialectique, pourrait-on dire, de la peinture à la notion de réalisme. On l'a dit, le flou semble jouer comme un écran, un voile qui mettrait à distance le réel en noyant ses contours. Dans ce cas, doit-on considérer qu'avec lui, la peinture se rapproche d'une certaine abstraction ? Bien au contraire, car le flou joue comme un effet de réel. Pourquoi ? Parce que la peinture l'emprunte au vocabulaire photographique. Elle n'imite plus seulement la précision qui permet à la photographie de saisir le monde comme on le voit, de le dupliquer quasiment à l'identique. Elle s'inspire de propriétés intrinsèquement liées à la technique photographique comme la sur- ou la sous-exposition, le flou, etc. Et ces propriétés sont d'autant plus propres au médium photographique qu'elles sont liées au temps. Temps de pose trop long, temps de pose trop court pour fixer, comme il se doit, une lumière ou un mouvement. La peinture ne connaît pas ce rapport au temps, cette nécessaire adaptation du temps de réalisation de l'image au temps de l'objet qu'elle reproduit. D'où cet effet étrange du flou en peinture. L'image nous semble vraie, réaliste, voire hyper-réaliste précisément, parce qu'elle est floue. Alors, au sein de cette tendance assez vaste, le travail d'Andy Densler exposé chez Claire Olivier parvient sans doute à s'inscrire dans le mouvement tout en s'en démarquant. Construisant d'abord des compositions hyper réalistes, il les floute en brossant dans la largeur la peinture encore fraîche. Mais cette image floutée est interrompue par des bandes horizontales, d'inégale largeur, où la matière est travaillée verticalement cette fois, où les coups de pinceau se juxtaposent, se chevauchent, créant comme une faille sismique, une aspérité soudaine dans la surface floutée de l'image. Confrontant deux registres dans le même espace pictural, Andy Densler empêche le regard de simplement glisser sur le lissé d'une surface comme il pouvait glisser sur l'étoile de Kars ou de Winstanley. Il l'accroche, le retient, l'oblige à changer de focale, à trouver le modèle perceptif qui lui permettra de saisir ensemble ces deux champs picturaux. Voici donc pour ce que l'on pouvait voir à Chelsea. Mais il faudra, et ce sera l'objet d'une future chronique, revenir sur la manière dont on peut le voir, c'est-à-dire revenir sur l'espace même des galeries. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer le titre de cette chronique, il est très simple, « White Cube ».